La cour royale, il était d'abord avec le prophète Samuel à Najot, près de Rama. Il s'est déplacé ensuite à Nob, lorsque le prêtre Ahimelech, nous venons de lire des choses de lui, lui a donné du pain. Il s'est déplacé ensuite à Gath, dans une ville des Philistins, des ennemis du peuple de Dieu. Et notre chapitre, chapitre 22, vous allez voir verset 1. Où se trouve-t-il notre David? Mais maintenant, il est dans la grotte, la caverne d'Adullam. Deux versets plus tard, le verset 3, il est encore en déplacement à Moab, où il essaye d'héberger sa famille. Verset 5, le prophète Gad avertit David, ne reste pas dans la forteresse. Et donc, il part, encore une fois. Et là, il parvient à la forêt d'Éret. Donc, David, il sait ce que c'est d'être réfugié, chers amis. Il sait ce que c'est de devoir se déplacer rapidement, de ne pas avoir un lieu qu'il peut appeler chez lui. Cette partie du livre, si vous voulez, c'est un peu comme un film de suspense lorsque le héros est en fuite. Vous connaissez ce genre, n'est-ce pas? Peut-être Jason Bourne ou quelque chose comme ça vient à l'esprit. Il est poursuivi sans merci par ses ennemis, jamais capable de se détendre pour plus d'une nuit ou deux avant de devoir reprendre la route. Il essaye de protéger sa famille, bien entendu. Il fait appel à tous ses contacts pour trouver des solutions pour être en sécurité. Le contraste avec Saül, verset 6, est frappant. Lui qui siégeait en dessous du tamaris en Israël. Ah là, il est à l'aise, confortable. En tout cas, il a l'air d'être à l'aise. David, nous avons remarqué déjà, il est le Messie, loin de Dieu, déjà désigné par Dieu pour être le roi choisi par Dieu. Et il nous donne donc un avant-goût de comment le ministère de Jésus-Christ, le Christ, le Messie, comment lui, il sera lorsque lui viendra sur terre. David, si vous voulez, il devient modèle de son successeur ultime, Jésus-Christ. Et Jésus disait, rappelons-nous, Matthieu chapitre 8, que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Sa demeure n'était pas de ce monde-ci. Et pour nous qui sommes aujourd'hui croyants en Christ, savez-vous que notre demeure non plus n'est pas dans ce monde-ci. Nous sommes des résidents temporaires, des étrangers sur la terre, selon l'apôtre Pierre. Notre concitoyenneté est dans le ciel, selon l'apôtre Paul. D'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous mène à notre premier point, que vous allez voir sur le dos de votre feuillet, si vous voulez suivre cela, où nous voyons que se joindre à Christ, c'est abandonner la sécurité de ce monde. Se joindre à Christ, c'est abandonner la sécurité de ce monde. Verset 1, c'est d'abord la famille de David qui rejoint David, là où il se trouve dans la grotte, ses frères et toute sa famille. Ensuite, verset 2, nous apprenons que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui. Et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. 400 hommes. Mais n'oublions pas que David, jusque-là, était un commandant de l'armée d'Israël. Il a mené des victoires contre des Philistins. Il avait dans le passé avec lui des meilleurs hommes du pays, formés, équipés pour la tâche. Mais maintenant, le voici avec une belle équipe de parias, si on veut. Ceux du royaume qui se plaignent des exigences du roi. Ceux qui ont des dettes, ceux qui sont mécontents pour une raison ou une autre. Vous pensez que David aurait choisi une telle équipe autour de lui si lui, il avait le choix de choisir? Vous voyez, dans ce monde, le peuple de loin de Dieu n'a rien d'impressionnant. Bon, je ne sais pas si hier vous avez observé sur la télé qu'il y avait un certain mariage royal qui a eu lieu en Grande-Bretagne. Il y avait le prince Harry. Il était, à un moment donné, la troisième personne suivant l'ordre de succession, mais au fur et à mesure que son frère a eu des enfants, il se trouve maintenant sixième dans l'ordre de succession. Mais les mariages de la royauté britannique ou autre, surtout en fait comme c'était hier jonglé avec un peu d'Hollywood grâce à Meghan, ce sont des occasions où il y a le people présent. Bien sûr, il y a la reine, on ne peut pas aller plus haut qu'elle. Il y avait le futur roi Charles, l'autre roi à venir, William, mais également il y avait le roi d'Hollywood, George Clooney. Il y avait David Beckham, le roi du foot, et il y avait la reine du tennis féminin, Serena Williams, aussi au rendez-vous. Quel beau rassemblement, n'est-ce pas? Mais le rassemblement autour de David a lieu non pas dans le château de Windsor, mais a lieu dans une grotte ou dans la forêt, avec un beau mélange des hors-la-loi, si vous voulez. Et ce qui était le cas pour David, désigné roi qu'il était, ben ça reste encore le cas. Aujourd'hui, vous savez, l'Église de Jésus-Christ n'est pas remplie de personnes super impressionnantes. Désolé, chers amis, si je vous offense ce matin, mais vous n'êtes pas un peuple super impressionnant. Moi non plus. Soyons honnêtes, se joindre à une église comme la nôtre, à s'associer et s'intéresser à des personnes comme nous, cela demande un peu de grâce, n'est-ce pas? De votre part, de notre part. Une église francophone à Bruxelles avec un pasteur et un assistant pasteur qui parle avec un petit accent anglais de temps en temps, avec un président qui parle avec un accent espagnol. Okay. Avec d'autres qui parlent beaucoup d'autres accents, ça demande de la grâce. Parmi nous, d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui gagnent un salaire impressionnant. Très peu de ceux qui ont des doctorats, très peu qui sont haut placés dans la société, dans le monde politique, dans les médias. Très peu de grands sportifs, d'ailleurs, parmi nous. Peu impressionnant. Mais c'est comme l'apôtre Paul le disait à l'église de Corinthe, chapitre 1 de 1 Corinthiens. Il n'y a parmi vous, disait-il, ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout. Vous l'avez entendu, hein? Merci Seigneur. Jésus est le sauveur de toute personne, riche ou pauvre. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il dit, pourquoi cela? Verset 27 de 1 Corinthiens chapitre 1, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Se joindre à David impliquait, signifiait qu'il devait quitter la sécurité de ce monde. C'est-à-dire de ne plus avoir la faveur du roi, l'approbation, de ceux qui ne vivent rien que pour ce monde-ci. Et cela signifie que nous devons être prêts à nous identifier à nos frères et à nos sœurs, aussi peu impressionnants qu'ils soient. L'Église, ce n'est pas comme si on va à la pêche une fois par semaine, comme si nous plongeons rien qu'une fois par semaine notre canne dans l'eau, pour une heure ou deux, mais pour le reste du temps, j'enlève ma canne, et je suis dans le monde, et je n'ai aucun contact avec toutes ces personnes extraterrestres qui se trouvent au sein de l'Église. Non, l'Église de Christ, c'est un peuple. une famille, le corps de Christ, où les fardeaux des autres deviennent les miens. Les joies sont partagées également. Nous œuvrons ensemble pour la gloire de Dieu. Et notre amour, les uns pour les autres, témoin de l'amour de Dieu pour nous en Christ. Vous appartenez à ce peuple-là. Vous prenez du plaisir à appartenir à ce peuple-là. Nous n'avons pas honte de Christ, ni de son peuple. Moïse, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Nous devons être attentifs, je pense, chers amis, à cette réalité dans notre Église, parce que nous vivons, je pense, dans un contexte relativement aisé ici à Woluwe-Saint-Lambert. Dans un sens, je l'espère, je le trouve, c'est assez convivial ici le dimanche matin, n'est-ce pas? Mais il y a une différence entre fréquenter de temps en temps une église ou sympathiser, venir rien qu'une fois par semaine pour une heure et demie, et de s'engager à servir les uns les autres de manière fiable et sacrificielle. Nous devons abandonner, chers frères et sœurs, la sécurité du monde et de nous joindre à Christ et à son peuple. Deuxième exhortation pour nous ce matin. Cette exhortation prend une tournante plus sobre ou sombre, car l'accent tombe maintenant à partir du verset 6 sur Saül. Saül, que nous avons laissé à table lorsqu'il avait dirigé sa lance contre son fils Jonathan au chapitre 20. Mais maintenant, on voit l'étendue de la méchanceté de Saül. Sa haine sans raison, sa paranoïa à propos de son pouvoir et son autorité. C'est pour cette raison-là que j'ai intitulé, à l'instar d'autres commentateurs sur ce passage, cette partie du texte, ne vous joignez pas à l'Antichrist. L'Antichrist, on n'entend pas beaucoup, je pense, dans notre Église. Et pourtant, l'Antichrist est mentionné 5 fois dans la Bible. 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous dit ceci, l'apôtre Jean, « Petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'Antichrist vient. » Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Donc oui, dit-il, il y a l'antichrist ultime qui viendra. Derrière lui, il y a bien sûr Satan qui s'oppose à Dieu et à son peuple. Mais avant cela, il y a plusieurs antichrists qui, si vous voulez, préfigurent le mal qui arrivera à son comble lorsque le dernier antichrist viendra. Et ces antichrists sont inlassables dans leur opposition à Christ et à son peuple. Ils rejettent que Jésus soit le Fils de Dieu. Et dans notre passage, Saül donc fait preuve de ces caractéristiques-là. Même s'il avait l'air tranquille sous le tamaris, le texte dévoile à fur et à mesure un autre Saül. Verset 7, il est entouré uniquement par ceux de sa tribu, ceux de la tribu de Benjamin. Et donc, il redescend maintenant à ce stade de sa carrière à un certain clonisme. Il fait confiance rien qu'à ses proches. Et non, en fait, il ne leur fait même pas confiance. Car il les reproche, vous voyez verset 8. « Vous avez tous conspiré contre moi. » Et personne ne m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe, de David. C'est ironique, parce que les Benjaminites sont ceux qui, justement, ont profité de la proximité de Saül, le roi. Eux, ils n'ont pas d'intérêt, comme d'autres ont intérêt, de fuir vers David. Non. Et donc, on peut imaginer leur gêne d'écouter Saül parler ainsi, n'est-ce pas? Avec de l'embarras, un peu sans doute. Il est devenu fou, là, Saül, avec ce qu'il dit ici. mais ils ne disent rien. Et donc, dans ce contexte, c'est l'étranger, Doeg, l'édomite, le texte souligne, qui lève la voix. Tel est l'état perturbé de Saül, que son bras droit, bah, lui, il ne fait même pas partie du peuple de Dieu. C'est un édomite. Doeg, il a eu des nouvelles de David, on l'a vu ça la semaine dernière. Mais il tord l'événement dont il était témoin au chapitre 21. Car non seulement il dit ici que Ahimelech avait donné des vivres et l'épée de Goliath à David, mais il ajoute qu'il avait consulté pour lui l'Éternel. Mais le texte de chapitre 21 ne dit pas cela. Mais Saül, lui, il a entendu ce qu'il veut entendre. Et donc Ahimelech est déjà jugé à ses yeux. Saül fait appel à ce grand prêtre. Inutile pour lui, triste à dire, de raisonner avec le roi. Il essaye, n'est-ce pas? Il dit que le roi ne mette pas l'affaire à la charge de son serviteur, ni de personne de ma famille, car ton serviteur ne sait pas un mot, petit ou grand, de tout ceci. La réponse de Saül à cela, tu seras puni de mort. Toi et les 85 sacrificateurs. Qui le fera? Ben, les autres qui sont là sont gênés, n'est-ce pas? Ils savent ce que Saül dit, ce n'est pas vrai. Ah, donc, à qui donc tourne-t-il Saül? À Doeg, ce mercenaire sans scrupule, l'homme pragmatique qui ne pose pas de questions. Verset 18b, il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. C'est macabre, c'est fait sans aucune pitié. Ça rappelle le même sang-froid qui menait les nazis à exterminer des millions de juifs sans conscience. Staline et Mao Tse-tung exterminaient des millions de leurs propres concitoyens. Conscience scellée, endurcie. Qu'est-ce qui se passe après ici? Saül, ville d'Oeg, anéantit toute la ville de Nob, tout ce qui s'y trouve. Telle est sa colère. C'est terrible. Le jugement réservé dans le livre d'un Samuel jusque-là pour les ennemis du peuple de Dieu tombe maintenant pour son propre peuple à lui, le peuple de Saül. Et rappelons-nous, ce n'est pas clair qu'Ahimelech ni les autres prêtres ont fait ce dont Saül les avait soupçonnés. Et même si Ahimelech avait aidé de manière consciente David contre Saül, Saül aurait dû reconnaître qu'une telle aide était juste et nécessaire. Dans l'aveuglement désespérément de Saül, il exerce son pouvoir d'une main de fer. En ce faisant, donc, il démontre à quel point son autorité légitime a disparu. Et c'est triste à dire, mais d'ici le retour de Christ, de telles personnes, tel responsable s'élèvera encore. C'était le cas de Pharaon au temps de Moïse, c'était le cas d'Hérode au temps de Jésus. Et depuis que le peuple qui appartient à Jésus-Christ, depuis lors, le peuple qui appartient à Jésus-Christ a connu d'autres tyrans. Si notre premier point donc, nous exhorte à abandonner la sécurité de ce monde-ci, ce deuxième souligne que nous devons nous attendre à de l'opposition virulente de temps à autre. Il y a 15 jours dans notre église, nous avons mentionné dans le feuillet, dans les prières, le pasteur Andrew Brunson, un Américain, pasteur depuis 23 ans en Turquie, d'une petite église modeste, d'une trentaine de personnes, je pense. Mais il se trouve actuellement au milieu d'un jeu politique dont il n'a rien à voir. Il est injustement emprisonné en Turquie depuis octobre 2016, toujours sans avoir eu un procès. La prochaine audience a été repoussée jusqu'au 18 juillet 2018, dans deux mois. Selon l'acte d'accusation de 62 pages, le pasteur Brunson aurait contribué à la préparation de la tentative du coup d'État turc de 2016. ces accusations reposent principalement sur des témoins anonymes et sur des documents secrets. Mais il est également accusé de diviser et séparer la Turquie par le biais de la christianisation. Il aurait agi comme un agent de guerre non conventionnel sous le masque d'un pasteur d'église évangélique. L'acte d'accusation identifie la christianisation avec le terrorisme et considère que la foi chrétienne met en danger l'unité de la Turquie. De telles oppositions, il y a encore aujourd'hui. Il y en aura encore dans l'avenir. Mais nous ne devons pas terminer ce deuxième point ici, parce que nous devons également mentionner un dernier élément de cette histoire de Saül et Doeg. Car Ahimelech, le prêtre que Saül a mis à mort, était un descendant d'Élie. 1 Samuel, le livre d'1 Samuel, commence avec le prêtre Élie. Lui qui cédait à toutes les caprices de ses fils, Ophné et Phinès. Comment est-ce qu'on dit Phinès en français? Ben voilà, vous me corrigerez après. Mais voici ce que Dieu a dit par rapport au péché d'Élie concernant ses fils. Au chapitre 2, verset 31 de 1 Samuel. Vous pouvez suivre si vous voulez. « Voici le temps arrive, disait-il à Élie, où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. » Ce serait ça la conséquence du mépris d'Élie pour l'honneur de Dieu. Et ce qu'on constate en passant, c'est ça ce qui arrive, ce jugement maintenant, via la main de Saül et Doeg. Même, vous voyez, la méchanceté de Saül, des antichrists qui continuent à se manifester au cours de l'histoire. Ils ne sont pas en dehors de la main souveraine de Dieu. Même à ce jour sombre pour le peuple de Dieu, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Non, son plan de bénir, de rassembler un peuple autour de Jésus-Christ poursuit toujours sa course. Oui, parfois, en tant que peuple de Dieu, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses. Nous avons vu ça dans le psaume 142, tantôt. Mais cependant, nous dit la Bible, nous ne sommes jamais écrasés. C'est vrai, l'opposition n'est pas raisonnable, chers amis. Elle est méchante. Mais elle arrive toutefois. Apparemment, Andrew Branson, le pasteur en Turquie, lorsque sa fille lui rendait visite, a perdu 20 kilos. Il avait l'air brisé, désespéré. Sa femme et ses enfants, bien sûr, lui manquent terriblement. Mais que disait-il lorsqu'il parlait à sa fille? Il disait que c'est un honneur de souffrir pour Jésus-Christ, comme beaucoup avant moi. Et ça, ça nous mène à notre troisième point aujourd'hui, chers amis. Joignez-vous à Christ. Joignez-vous à Christ. Vous trouverez refuge auprès de lui. Vous trouverez refuge auprès de lui. Dans la prophétie d'Élie, de Dieu donné, pardon, à Élie au chapitre 2, le verset 33 a dit que Dieu laisserait subsister auprès de mon autel l'un des tiens afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais c'est l'un des tiens apparaît ici au chapitre 22, au verset 20, parce que c'est là où nous rencontrons le fils d'Ahimelech qui a pu s'échapper. Son nom était Abiata. Où allait-il, Abiata? Ben, il allait à David. Et il raconte à David ce qui se passe, ce qui s'est passé. David se souvient de la présence donc, de Doeg lorsqu'Ahimelech lui a donné du pain. Et donc, il réfléchit sur le danger que cela entraînait pour Ahimelech. Dans ce sens-là, il reconnaît que c'est lui, David, nous dit le texte, qui est cause de la mort de toutes les personnes de ta famille. Évidemment, ce n'est pas le cas. C'est Saül, c'est Doeg, la racine de tout ce mal. Mais David voit l'enchaînement des événements et il regrette que toutes ces autres personnes aient été prises dedans. Ça lui fait mal au cœur. Quel contraste, n'est-ce pas, avec Saül. Lui, aveugle, endurci, David, tendre, compatissant. Et qu'offre-t-il à Abiata, verset 23? Reste avec moi, sois sans crainte, car celui qui en veut à ma vie, en veut aussi à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. Oui, près de David, loin de Dieu, tu seras bien gardé. Mais c'est difficile à croire, ça, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. David qui bouge tout le temps parce qu'il est poursuivi par Saül et ses hommes. Actuellement, il est où? Il est dans la forêt. Mais ici, David ne dit pas à Abiata qu'il n'aura pas de difficultés ou pas d'opprobre de la part du monde ou pas d'attaque de la part des antichrists. Mais il dit que ultimement, sa victoire sera du côté de loin de Dieu, David. Mais cela ne s'est pas clair si nous avons nos yeux fixés sur ce qu'on observe, sur ce monde-ci. Ce n'est que, si vous voulez, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous permet de voir les circonstances autrement. Ben, j'aimerais qu'on projette, si tu veux bien, Pablo, pardon mon cher frère, juste l'image, première image, si vous voulez, sur le texte. Sur l'écran. Parce qu'ici, vous allez voir que pendant le week-end d'église, nous avons essayé, si pour ceux qui étaient là, de construire un puzzle. Et c'était un travail assez difficile. Et si vous voyez cette image-là prise d'en haut, vous allez voir que ça n'a pas beaucoup de sens. Lorsqu'on était en train de construire, on pouvait ressentir le découragement. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va donner à quelque chose? Mais, merci Seigneur, on était avec la boîte qui montrait l'image. Et donc, même si on voyait à ce stade-ci pas beaucoup d'espoir par rapport à notre avenir, cela nous donner de l'espoir de persévérer et de continuer. Et, bonne nouvelle, même si on n'a pas pu l'achever au week-end d'église, avec l'aide de beaucoup, allons-y Pablo, ça viendra. Voilà, avec l'aide de beaucoup, maintenant ce magnifique puzzle a été terminé et se trouve à la famille Orange chez nous. Donc, vous êtes invités de venir admirer et nous féliciter pour ce beau travail. Bravo à chacun qui a pu le faire. Okay. Mais pourquoi je veux vous montrer ça? C'est bon, hein? Merci, hein? Pablo. Parce que comme un puzzle, si on ne voyait pas les pièces dans son ensemble ultimement, okay, on se décourage. Et l'Évangile, si vous voulez, nous donne une connaissance certaine de la réalisation du projet de Dieu. On sait où est-ce qu'on va. Car loin de Dieu, Christ, rejeté par les hommes, cloué sur une croix et ressuscité, il a vaincu la mort, le péché, le diable. Il a été élevé à la plus haute place, au-dessus de toute autorité. Et donc, comme dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 8, nous savons, si nous sommes croyants en Christ mort et ressuscité, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés par sa croix, par sa mort à notre place. Et donc, il dit, l'apôtre Paul, nous avons l'assurance que ni la mort, Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous avez cette assurance, chers amis? Si vous ne possédez pas encore cette assurance, trouvez refuge en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Grâce à ce message de la croix, nous pouvons avoir ce refuge, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et si nous connaissons déjà ce refuge, chers amis, alors nous devons patienter. Patienter. Parce que le refuge que nous avons, grâce à sa mort à notre place, ça tient bon. On peut continuer à lui faire confiance. Donc, je vous invite à prier pour terminer. Quelle joie, Seigneur, pour nous de savoir que en Christ, par la foi, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Quelle joie, Seigneur, nous savons donc que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donne-nous, si nous ne connaissons pas encore ce refuge, donne-nous, malgré ce qu'on observe dans le monde, tout ce que cela nous offre, donne-nous de trouver refuge en Christ, d'abandonner la sécurité de ce monde pour trouver une sécurité qui va au-delà de ce monde. Et donne-nous, Seigneur, si nous parcourons actuellement des circonstances difficiles, de persévérer, de patienter, de prions cela pour ce pasteur en Turquie. Sois avec lui. Nous prions pour sa liberté, bien sûr, mais nous prions également pour la puissance de son témoignage dans cette situation. Qu'il soit convaincu encore de sa destination ultime. Et cela grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous te le demandons cela au nom de Jésus. Amen.